Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux. Depuis quelques années, la mémoire et l'histoire sont devenues, dans un contexte de crise, dans un contexte d'angoisse à l'égard de l'avenir, un enjeu politique et idéologique fondamental, comme le prouvent plusieurs débats que nous abordons aujourd'hui. Dans cet exposé, je vais tenter de présenter brièvement, évidemment, avec probablement quelques simplifications, quelle est la nature de la recomposition du conservatisme dans le champ précis de la discipline historique? Et donc, je vais réfléchir plutôt en termes de ciblant le champ de la discipline historique. Je vais d'abord m'attarder à présenter cette sensibilité conservatrice, montrer ensuite ce qu'elle considère être les problèmes du Québec contemporain, et enfin esquisser son projet historiographique, et c'est-à-dire la façon dont, selon elle, la discipline historique devrait répondre à ces problèmes. Donc, la sensibilité conservatrice. D'abord, je constate, comme plusieurs l'ont fait, que nous avons affaire à un groupe restreint d'intellectuels, un groupe qui n'a pas un poids décisif dans l'université, dans le savoir, dans le discours scientifique, bien qu'il a certainement un poids important dans l'espace public et dans les débats scientifiques également. Même si c'est faux de prétendre qu'il s'agit d'un groupe dominant. Il ne s'agit pas non plus d'un groupe structuré, et on peut soutenir, comme plusieurs analystes l'ont fait, qu'il y a plusieurs courants conservateurs, plusieurs conservatismes, et on a vu la difficulté de définir le conservatisme résulte en grande partie de ça. Ainsi, parmi les conservateurs qui ont une réflexion explicite sur le passé québécois, on pourrait identifier plusieurs tendances. Je pense à la tendance plutôt néolibérale de Gilles Paquette, la tendance plutôt traditionnaliste de Pierre Trépanier, je dirais une sorte de tendance républicaine de Charles-Philippe Courtois, culturelle, morale peut-être, d'Éric Bédard, qui pourra répondre à la fin s'il le désire, s'il trouve que l'appellation ne lui va pas. Si la plupart sont souverainistes et lient d'une façon étroite conservatisme et nationalisme québécois, certains, je pense par exemple à Damien-Claude Bélanger, insistent plutôt sur les liens entre conservatisme et canadienneté. Et c'est d'ailleurs ce qui me semble être la tendance qui est à l'origine d'une revue, la revue Mens, la revue intellectuelle et culturelle d'Amérique française qui a été fondée au tournant des années 2000. Donc, malgré ces différences que je reconnais, il s'agit pourtant bien d'une sensibilité idéologique partagée, à l'exception peut-être de Gilles Paquette, je le reconnais très facilement, la recomposition du conservatisme dans la discipline historique ne passe pas par les idées néolibérales développées notamment par Gilles Paquette. Donc, il s'agit bien d'une sensibilité idéologique partagée. Et on l'aura compris, donc, mon objectif, à partir de ce constat-là, ce n'est pas nécessairement de faire une exégèse de tous les conservatismes, de présenter une cartographie des divers conservatismes dans le champ de l'histoire. J'aimerais plutôt insister sur un socle, je dirais, de préoccupations communes qui me semble se dégager de divers travaux s'inspirant du conservatisme. Et donc, c'est sur ce socle de préoccupations conservatrice que je vais me tourner maintenant. D'une part, identifier c'est quoi ces préoccupations à l'égard de la crise de la société québécoise. Et deuxièmement, présenter le projet historiographique qui voudrait répondre à ce diagnostic de crise sur la société québécoise. Donc, parmi une série de préoccupations relatives à la crise de la société québécoise, et ces préoccupations-là sont nombreuses, trois préoccupations quand même me semblent est globalement partagée par la sensibilité historique conservatrice. Du moins, en tout cas, celle qui se réclame explicitement du nationalisme québécois. Première préoccupation. Pour cette sensibilité, la société québécoise ne souffre pas principalement du capitalisme mondialisé ou plus largement des inégalités de pouvoir. Ce n'est pas nié, mais ce n'est pas principalement le problème de la société québécoise. Avant tout, la société québécoise est une société en crise d'idées et en crise de valeurs. Et plus précisément, cette crise des idées et cette crise des valeurs est directement liée à ce qu'on appelle la crise de la conscience historique des Québécois, de la mémoire, de l'identité, donc, des Québécois. Et quand on parle ici de Québécois, c'est des Québécois, évidemment, d'origine française. Cette crise est essentiellement attribuable à l'expérience radicale, et ça, c'est encore selon le discours conservateur, est essentiellement attribuable à l'expérience radicale d'arrachement à la tradition qu'a représentée la Révolution tranquille, du moins, en tout cas, après son détournement technocratique ou gauchiste. Pour les historiens de la nouvelle sensibilité, on s'accorde généralement sur le fait que la Révolution tranquille, encore une fois, après son détournement, a été une entreprise de négation de soi, de négation de nous, qui aurait attenté à la mémoire et à la tradition, bref, qui se serait attaqué à la culture jusque dans ses profondeurs les plus profondes. Je n'avais pas fini cette phrase-là. Deuxième préoccupation. Je pensais que ça allait venir pendant l'exposé, mais non, j'ai cherché, il n'y a rien. Deuxième préoccupation. Parmi les dommages collatéraux les plus importants de cette entreprise de négation de soi que fut la Révolution tranquille, on peut noter la crise des élites traditionnelles. La crise des élites traditionnelles, oui, c'est ce que je voulais dire. La société actuelle est marquée par un égalitarisme niveleur, une société atrophiée par la culture technocratique de l'État, le corporatisme des mouvements sociaux, l'hédonisme de la gauche 68arde et le particularisme des identités. Tout ça mine la place des élites dans notre société québécoise. Tout cela, donc, est attribué à la Révolution tranquille, du moins, encore une fois, je le précise, après son détournement. Dans une société ingouvernable, viciée par les multiples formes d'égalitarisme, la sortie de crise, selon ces historiens, ne passe pas vraiment par les idées développées par les mouvements sociaux ou populaires, de toute façon source de divisions corporatistes ou identitaires, mais bien par les idées, me semble-t-il, des grands hommes qui pourraient incarner un leadership rassembleur, imprégné par les valeurs léguées par la tradition. Et il me semble, de voir la référence continuelle à Charles de Gaulle dans les textes, me semble que Charles de Gaulle semble représenter ce modèle-là. La troisième préoccupation, la crise de la conscience historique des Québécois, est en grande partie attribuable aux historiens en général. Et c'est peut-être l'aspect le plus étonnant de ce grand constat sur la crise de la conscience historique des Québécois. Crise attribuée en grande partie aux historiens en général, et plus particulièrement aux historiens qui ont fait de l'histoire sociale. En effet, depuis une dizaine d'années, l'histoire sociale fait l'objet d'une critique radicale, systématique, qui a, me semble un peu curieusement, suscité peu de réponses. Pour la nouvelle sensibilité, donc, les historiens qui pratiquent l'histoire sociale, influencés par le progressisme, le modernisme, l'égalitarisme, n'auraient eu de cesse de critiquer la tradition, fondement de la cohésion sociale. Du coup, ces historiens auraient pratiqué activement à l'entreprise systématique de destruction de la tradition, minant la cohésion sociale et, au final, la capacité de la nation à se penser comme un sujet politique unitaire, et c'est-à-dire au-delà des intérêts particularistes des mouvements sociaux et identitaires. Ce constat de crise-là nourrit un projet historiographique qui me semble quand même assez cohérent, même si je reconnais que le projet historiographique est en développement et que c'est encore peut-être un peu prématuré de définir quel sera ce projet historiographique, mais il me semble quand même de voir quelques indices qui sont liés à ce constat de crise de la société québécoise. Ce constat de crise, donc, explique pourquoi, selon la nouvelle sensibilité conservatrice, le temps est venu de proposer une nouvelle vision, une nouvelle version du récit national, libérée en grande partie des travers de l'histoire sociale. Il est peut-être encore trop tôt pour définir ce que serait donc exactement le nouveau type d'histoire promu par la nouvelle sensibilité, mais si on se fie à la production actuelle, donc, trois aspects semblent prédominer. Premier aspect, l'histoire sociale aurait été une histoire essentiellement idéologique, marquée donc par les présupposés égalitaristes du marxisme, du féminisme et du multiculturalisme. Il y a quelque chose vraiment de frappant lorsqu'on lit la nouvelle sensibilité, de voir à quel point l'impact du marxisme a été quelque chose de vraiment qui a été menaçant pour cette génération d'intellectuels qui est un peu la mienne, et j'avoue que je n'ai pas vécu cette expérience d'un marxisme si totalitaire. Et il me semble, derrière ça, plus que, et si je me fie à mon expérience, donc si cette expérience-là, si cette, ce discours vraiment anti-marxiste et en général assez hostile à la gauche est présent, c'est peut-être davantage parce que il me semble que derrière cette critique, donc pour le moins revancharde, de cette pensée qui pose la question du pouvoir à la lumière de préoccupations pour l'égalité réelle, c'est non seulement la gauche qui est dénoncée, c'est non seulement le marxisme qui est dénoncé, mais bien toute conception d'un savoir historique critique. Ainsi, il semble que l'histoire, selon cette nouvelle sensibilité, doit être pratiquée désormais à la lumière d'un impératif moral qui se dégagerait de l'histoire contemporaine et notamment des crimes de masse créés par la gauche radicale, la gauche communiste, etc. C'est vraiment quelque chose qui revient constamment dans les textes de la nouvelle sensibilité. Et il me semble qu'à partir de là, il y a comme un impératif moral qui fait en sorte que toute forme de radicalisme, comme le dit un des historiens, toute forme de radicalisme tue. Il me semble que ça oriente grandement les réflexions sur l'histoire. Et donc, face au danger que représente toute forme de radicalisme pour l'humanité, tel que le dit les historiens de la nouvelle sensibilité, l'historien doit donc prendre le parti pris systématique de la tradition. Et je vais très rapidement finir avec les deux derniers aspects. Et il me semble que derrière cette critique, donc, revancharde de la gauche et toute forme de radicalisme, qui a permis d'ailleurs de rejeter l'histoire sociale en bloc, comme une histoire idéologique donc centrée sur l'égalité et le pouvoir, oubliant le monde libre, transcendantal des idées. C'est pourquoi le projet historiographique de la nouvelle sensibilité se présente comme une histoire des idées, ou ce que la Jeune Revue Humaine appelle l'histoire intellectuelle. C'est-à-dire d'étudier l'histoire des idées comme une histoire vraiment dégagée des rapports de pouvoir et des rapports sociaux. Et donc, si on se fie à la production récente, et je n'aurai pas le temps d'y arriver, mais cette histoire des idées me semble directement liée à un vaste chantier de revalorisation des élites traditionnelles, dont les valeurs seraient apparemment porteuses de la nouvelle historique, léguée par la tradition. Ces valeurs de l'élite traditionnelle, de la nouvelle sensibilité, et la nouvelle sensibilité consacre vraiment beaucoup d'efforts pour montrer qu'elle n'est pas élitiste, qu'elle n'est pas sexiste, qu'elle n'est pas raciste. Ces valeurs traditionnelles auraient donc été essentiellement bonnes pour l'ensemble de la population, et même bien plus, en tout cas, que l'égalitarisme anti-humaniste de la gauche 68-arde. Donc, en conclusion, voilà les trois aspects qui me semblent importants de la nouvelle sensibilité, c'est-à-dire, d'une part, une critique de la gauche radicale, d'autre part, vraiment, cette volonté de revaloriser le rôle des élites, et troisièmement, ce rôle essentiel des élites, des idées, mais essentiellement des idées des élites. Et donc, en conclusion, ce qui constitue à mes yeux les éléments essentiels de cette recomposition du conservatisme, toujours en chantier, c'est, me semble-t-il, que cette sensibilité est grandement préoccupée par une société qu'elle juge ingouvernable, ce qu'elle attribue au final à la perte d'autorité légitime qui accompagne nécessairement le déclin des traditions et des élites qui les portent. Et essentiellement, c'est quelque chose qui est donc lié à la crise de la société québécoise depuis la Révolution tranquille qui aurait bouleversé cette tradition et cette cohésion sociale qui était associée à cette tradition-là. Merci.